L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et on se retrouve une dernière fois depuis le salon de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, avec le président de l'AMIF, Stéphane Baudet, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien après ces deux jours intenses?
Un peu sur les rotules, comme à chaque fois après un salon, mais heureux.
Heureux, c'est le principal. Alors écoutez, on va évoquer le bilan aussi de ce salon, évidemment, parce que c'est ça qui est important à l'heure qu'il est. Les collectivités au cœur de la relance, c'était le sujet de ce salon cette année. Les partenaires des communes sont là, les élus sont venus, quelques ministres, peut-être pas tous, mais en tout cas quelques-uns. Quel est le premier bilan que vous tirez ce soir du salon de l'AMIF?
D'abord,
salon de reprise.
Exactement. C'est exactement ça. Je vais vous dire, on a fait ici un acte de foi. On a fait le pari il y a 3 mois maintenant de maintenir un salon avant l'été. On ne savait pas que les élections, d'ailleurs, seraient décalées, ce qui nous a fait perdre un peu de fréquentation aujourd'hui, puisqu'il y avait l'installation notamment
des départements.
Mais on avait l'intuition qu'on aurait une possibilité de déconfinement et de fin de tout un tas de protocoles sanitaires qui nous empêchaient de tenir les salons. Et on a eu le pif. Voilà, c'est-à-dire qu'on a réussi, on a tenu ce salon. Et d'une certaine manière, moi je me souviens hier, quand on est arrivé, quand on a fait le défilé inaugural, il y avait véritablement de la joie de se retrouver, enfin, physiquement, ensemble. Les élus avec les partenaires, mais les partenaires entre eux. J'ai pas mal de partenaires qui m'ont dit on a fait pas mal de business entre nous pendant ce salon, parce que c'était aussi le plaisir de se retrouver. Donc c'est une bonne incarnation de ce sentiment, de ce besoin de relance qu'on a voulu initier, au-delà évidemment du pacte de relance, de la relance de l'économie, de l'appréhension des crises qui vont suivre la crise sanitaire, c'est-à-dire les crises sociales, etc.
Alors les collectivités au cœur de la relance, il faut quand même en parler bien évidemment, puisque c'est le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être vraiment pivot pour cette relance? Parce qu'on a beaucoup entendu parler quand même des 100 milliards de l'État. On entend parler d'un éventuel deuxième plan de relance parce que ça ne suffirait pas. Est-ce que vous dites à l'État, non mais attendez, déjà, un, les 100 milliards, on les a toujours pas vus. Deux, on est à la manœuvre et nous, on y va au niveau local.
Bon, d'abord, sur les 100 milliards, on les a pas vus pour la plupart, pour une raison très simple. C'est que le plan de relance est un paquebot considérable qui s'adresse en très, très grande majorité plutôt aux acteurs privés qu'aux acteurs publics.
Et avec de l'argent qui vient de l'Europe, en plus.
Voilà, exactement. Et qui, d'ailleurs, se contraint dans les délais sur lesquels on doit les consommer. Donc la part résiduelle sur les collectivités elles-mêmes est petite, d'une part. Et d'autre part, les contingences qui sont celles d'une collectivité. Moi, j'ai donné un exemple très concret au ministre hier. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu mettre une de mes écoles en cours de travaux dans le cadre du plan de relance. Comme mes travaux ne se terminent pas au 31 décembre, ça a été pas de possibilité d'aller sur le plan de relance.
Bah oui.
Donc on voit bien qu'il y a parfois une petite dichotomie entre ce que l'on voudrait faire à l'échelle nationale et la bonne volonté du gouvernement sur le plan de relance et puis la réalité technico-administrative de ce qu'est notre pays. Après, on est quand même le pays dans lequel il y a le plus d'argent investi dans cette relance, comme on est le pays dans lequel il y a eu le plus d'aide et d'accompagnement social, économique, pendant la crise. Exactement. Le quoi qu'il en coûte, on finira bien par le payer d'une manière ou d'une autre. On verra bien d'ailleurs de quelle façon ça alimentera le débat présidentiel l'année prochaine.
Venir, ouais.
Mais cette aide, elle est réelle. Elle n'est pas forcément toujours faite pour les collectivités, mais les collectivités ont aussi, on a cette agilité-là, eu la capacité de venir utiliser le plan de relance. Alors, peut-être pas directement dans le budget communal pour une école. En revanche, par exemple, sur l'université d'Évry, on a réussi, sur des travaux de réfection sur un bâtiment particulièrement important, de capter une grosse partie de plan de relance qui nous a permis d'accélérer des travaux de régénération, notamment énergétique. Donc voilà. Donc il y a quand même des leviers, mais il y a, comme d'habitude, des décalages technico-administratifs. C'est l'histoire assez lourde de notre pays.
Il y a ce sujet de la décentralisation qui est aussi lié évidemment à tout ça. Vous avez publié d'ailleurs une étude que vous avez faite auprès des maires d'Île-de-France sur ce sujet. Est-ce qu'il faut revoir justement le périmètre des maires?
Le périmètre des maires, c'est pareil, dans notre pays, il n'y a plus que deux élus pour les Français. Il y a le maire.
Et le président de la République.
Et le président de la République. Tout le reste, c'est une espèce de nébuleuse qu'on ne connaît pas. Et donc le maire, d'une certaine manière, parce qu'il est à portée de baffe, d'ailleurs maintenant, en vérité, il les prend en plus, en réel. Le maire, il est responsable de tout et donc il peut tout faire. il y a 15 ou 20 ans, quand on venait voir un maire en lui disant « je voudrais une place au collège parce que mon fils n'a pas été accepté », on aurait pu vous dire assez naturellement « allez voir le conseiller général ». Aujourd'hui, on ne dit même plus ça, on le fait. Voilà. Ouais, donc le maire a pris l'ensemble de cet espace, il est donc surexposé. Et en même temps qu'il est surexposé, en même temps qu'on a le sentiment qu'il est à la fois l'élu le plus respecté et l'élu le plus attendu sur le terrain, c'est l'élu auquel on a enlevé le plus de moyens pour faire. Il y a eu les baisses de dotation au précédent mandat. Il y a eu le fait d'agrandir de façon forcée par l'État les périmètres intercommunaux, ce qui ont dilué forcément le pouvoir politique des collectivités. Et puis il y a un débat lancinant, ça fait 20 ans que je suis maire et que je le vois, c'est le débat de la reconcentration petit à petit et donc de facto de la perte d'autonomie fiscale et financière des communes. Donc il y a là un paradoxe, c'est-à-dire que le maire est de plus en plus exposé, on lui demande de faire toujours plus et on lui donne toujours moins de moyens.
Oui. L'intercommunalité, est-ce que c'est une des solutions aussi pour s'en sortir ? Parce que dans l'étude que vous avez réalisée, on sent quand même qu'il y a un doute qui apparaît chez de nombreux élus.
Alors, il faut différencier le fait que le fait intercommunal aujourd'hui est apprécié. D'ailleurs, la plupart des élus, notamment de grande couronne et des territoires ruraux, ne veulent même pas remettre en cause le périmètre de leur intercommunalité. Donc on se rend compte que c'est digéré, on se rend compte que la puissance de frappe d'une intercommunalité peut être accompagnante et peut être une forme de réponse. Quand on analyse un peu plus finement les réponses, c'est dans les grands territoires, c'est quand on vient flirter avec les EPT qui ont un statut différent. Ils n'ont pas la même fiscalité, ils n'ont pas le même process électoral. Je vous rappelle que quand vous votez au municipal en grande couronne, vous fléchez sur votre bulletin de vote au municipal celles et ceux qui vont aller dans le PCI, c'est-à-dire l'agglomération, la communauté de communes, etc. Quand vous êtes dans la petite couronne, vous votez pas pour celui qui va aller à l'EPT, mais celui qui va à la métropole. Ce qui fait que, du coup, l'incarnation de l'établissement public territorial est extrêmement difficile, donc son assise politique est difficile. Et donc, c'est toutes ces différenciations qu'on a à l'échelle de l'Île-de-France qui sont parfaitement incompréhensibles, auxquelles on ajoute la couche de la métropole du Grand Paris. Ça rend les choses, quand on est de l'extérieur, d'ailleurs, les élus qui sont finalement les plus critiques de la métropole du Grand Paris sont celles et ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire qu'ils ne la connaissent pas.
Dans cette étude-là que vous avez menée auprès des maires, vous êtes aujourd'hui maire d'une commune nouvelle, Évry-Courcouronnes, et justement, un quart des maires se dit intéressé par une potentielle fusion de leur commune pour créer une commune nouvelle.
Je trouve que
vous
c'est
servez
une bonne nouvelle,
d'exemple.
Moi. Je ne sais pas si je sers d'exemple. Vous savez, il y a près de 600 à 700 communes nouvelles en France. La plupart, et d'ailleurs, quand Jacques Pélissard a voté la première loi sur les communes nouvelles, c'était il y a déjà une petite quinzaine d'années, c'était fait plutôt pour aider les petites communes à se constituer des services publics à des échelles territoriales plutôt rurales. Et dans les 600 communes nouvelles de France, elles sont pour la plupart de taille de moins de 10 000 habitants. Nous, Évry-Courcouronnes, nous sommes une exception. Il n'y a que 3 communes nouvelles en France qui font cette taille-là. Évry-Courcouronnes, qui est la seule complètement intégrée, c'est-à-dire avec un seul maire, un seul conseil municipal. Et vous avez Annecy et Cherbourg, qui sont là plutôt des formes d'intercommunalité. Mais en tout cas, je suis content que ça fasse école.
Ça fait son chemin, en tout cas. Oui.
C'est une solution, en tout cas, pour moi, ce n'est pas une solution qu'il faut imposer, mais c'est une solution de projet politique. Si on a réussi la fusion de la commune nouvelle d'Évry-Courcouronnes en si peu de temps, 9 mois, si d'ailleurs, accessoirement, électoralement, on a gagné l'élection législative, l'élection municipale, l'élection départementale la semaine dernière, c'est qu'on a plutôt réussi le passage à la commune nouvelle, c'est parce que la commune nouvelle se nourrit d'un projet politique. C'est l'inverse total de ce que nous a imposé le gouvernement précédent en nous dessinant des intercommunalités obligatoires, en nous disant après, faites un projet avec le périmètre qu'on vous a dessiné, qui n'a ni queue ni tête, qui ne correspond pas à un bassin de transport, qui ne correspond pas à un bassin d'habitat. Donc oui, la commune nouvelle peut être une solution. Dès lors qu'on est sur la base d'un projet politique qui émane des territoires, alors il y a une solution.
Stéphane Baudet, on remarque également à travers cette étude que les premiers effets de la crise sanitaire se font ressentir. Les maires le remarquent en termes de déplacement, par exemple, en termes de logement, parce que les gens veulent plus d'espace, etc. Comment vous le vivez, ça, à Évry-Courcouronnes ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au niveau de votre commune ?
Nous, au niveau d'Évry-Courcouronnes, on a évidemment la difficulté d'exiguïté de certains logements dans les quartiers populaires quand il y a la période de confinement. Mais en même temps, puisqu'on est une ex-ville nouvelle, qu'on est à 40 km de Paris, qu'on a des grands parcs, qu'on est aux portes des territoires périurbains et ruraux, on fait partie de ces territoires qui peuvent redevenir du coup attractifs parce qu'on a de l'espace.
Eh oui.
Parce qu'on offre toutes les aménités urbaines. On y trouve les tribunaux, la préfecture, le département, tous les services, une université, 40 000 emplois. Donc on a cette capacité justement à accueillir cette population qui veut partir de la zone dense et de Paris parce qu'elle a très très mal vécu le confinement sans terrasse, etc. Donc il faut aussi transformer positivement ce qui s'est passé. Les villes nouvelles peuvent reprendre, retrouver leur rôle dans le polycentrisme qu'avait souhaité le général de Gaulle et le préfet Paul de Louvrier il y a presque 60 ans. Bah voilà, c'est peut-être le moment d'une renaissance et d'un retour de l'attractivité de ces villes.
Est-ce que, malgré tout, les communes d'Île-de-France sont armées pour accueillir tous ces nouveaux habitants? Derrière, il faut aussi évidemment avoir des services publics, etc.
C'est le double sujet, d'abord, de l'accueil des populations par la construction de logements. Vous savez qu'on a un bénéfice migratoire de 70 000 habitants par jour.
Par jour, ça serait chaud. Hein,
oui. Mais par an. C'est-à-dire qu'il y a 70 000 habitants nouveaux qui viennent de l'extérieur en Île-de-France par an. Vous avez le phénomène de décohabitation, puisqu'on est une région très très jeune, on a une décohabitation.
Bien sûr,
vous avez le phénomène de l'éclatement de la cellule familiale. En France, en moyenne, vous avez une famille sur trois qui divorce. En Île-de-France, c'est une sur deux.
Ouais.
Voilà, donc c'est des maths. Hein, là où il faut deux logements, il en faut dorénavant trois. Donc c'est à cette question de la reprise du logement. On avait péniblement réussi à atteindre les 70 000 dépôts de permis de construire en 2019, ce qui était la projection depuis des années, l'objectif qu'on devait atteindre de façon annuelle pour construire les logements qu'il fallait. Ça s'est effondré avec la crise sanitaire. Et puis en face, c'est le sens de votre question, vous avez cette baisse de dotation que j'évoquais tout à l'heure, qui fait qu'on n'est plus toujours en capacité d'accompagner en matière d'équipement public les crèches, les écoles, l'espace public, de façon qualitative, ces populations nouvelles qui viennent vers nous. Ça fait partie des équations qu'on doit résoudre avec le gouvernement.
Mais alors, justement, qu'est-ce que vous dites au gouvernement et au président de la République sur ce sujet-là? La taxe d'habitation a disparu, elle n'a pas été totalement remplacée par l'État. D'autres dotations ont disparu. Vous lui dites quoi au président de la République?
Ça fait deux jours que je dis à tous les ministres que je croise. À chaque fois qu'on fait une table ronde, on nous demande en un mot de qualifier la fin de la table ronde. Et depuis hier, je dis la confiance, restaurons la confiance. Arrêtons d'être dans cette espèce de systématisme qui consiste à contraindre les collectivités, à leur enlever des dotations, à les remplacer par, pas de nouvelles dotations, mais des subventions qu'on donne à des préfets qui, évidemment, sous les fourches codines qu'a fixées le gouvernement, les redistribuent peut-être aux communes si elles font ce que le gouvernement a politiquement choisi qu'il fallait faire.
Et tout étant peut-être en plus.
Et tout étant peut-être. J'ai cité hier à Jacqueline Gourault, quand elle était là, l'exemple d'un des voyages d'études qu'on a fait avec la MIF. Quand on fait des voyages d'études, on travaille avec la MIF, qui a pour moi été un révélateur. Il est relativement extrémiste dans son positionnement, mais il est super intéressant. C'est Copenhague. Pourquoi Copenhague est intéressant? Parce qu'à Copenhague, alors je sais qu'il y a moins de communes qu'en France, parce qu'ils ont su se renouveler eux-mêmes et faire des communes nouvelles, il y a moins de collectivités, mais à Copenhague, on peut négocier un contrat de confiance avec l'État sur 3 ans, sur n'importe quelle compétence régalienne que peut prendre la collectivité à l'échelle locale pour cette période-là, en contrepartie de quoi il touche une partie de rémunération de l'État qui provient non seulement des taxes locales telles qu'on les connaît, mais également, ouvrons un débat, de l'impôt sur le revenu. Mmh. Voilà. Et je trouve que c'est un contrat de confiance assez exemplaire. Il est sans doute très difficile dans un pays à la fois jacobin et aussi grand que le nôtre par rapport à ce qu'on connaît là-bas de reproduire l'exemple. Mais voilà, des idées de confiance. Remettons de la confiance. Arrêtons par l'État d'être systématiquement dans le contrôle. Regardez dans l'étude que l'on a faite sur la décentralisation par les maires, combien il y en a qui se plaignent du contrôle de l'égalité, par exemple. Voilà, c'est super intéressant. Remettons de la confiance. Le maire, c'est quand même celui qui anime, c'est celui qui donne de la vie, c'est celui qui fait ville. Et si on ne fait pas ville, évidemment, le moteur s'arrête. Rappelons quand même que la collectivité commune est le premier maître d'ouvrage. Le premier maître d'ouvrage public. On dit souvent que les collectivités, c'est 80% de l'investissement public. Oui, pour les collectivités publiques. Mais le premier maître d'ouvrage, ça reste la commune. Au début, c'est quand par exemple la région met 1 million dans un gymnase, c'est la ville qui est maître d'ouvrage. Et la ville, quand elle a récupéré le million de la région pour faire son gymnase, elle a aussi récupéré le million du département, mais elle vient aussi, elle, en ajouter 6. C'est elle le maître d'ouvrage. Donc si la commune s'arrête d'investir, d'initier des projets, c'est une catastrophe. Juste un dernier chiffre pour que tout le monde ait ça à l'esprit. Quand il y a eu le pacte de stabilité, les 11 milliards de baisse de dotation en 2014-2015, l'impact sur le BTP s'est ressenti en 2016, moins 30 000 emplois. Voilà, c'est parlant.
C'est parlant. Est-ce que vous êtes inquiet justement sur... on parlait de la construction, on l'a dit, ça s'est écroulé pour le logement neuf. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, dans vos communes en Île-de-France, parce que ça ne repart pas immédiatement? On le sent bien. Enfin, tous ceux qui sont passés sur ce plateau le disent. Parfois, on sent un frémissement, mais on sent que les maires ont des difficultés à repartir sur ce sujet.
On a plusieurs
des problèmes financiers dont on a parlé.
Oui, on a plusieurs sujets. Il y a un problème financier, évidemment, mais pas que. Il y a un problème sociétal dont on doit prendre conscience collectivement. Sous couvert d'un débat évidemment essentiel, on a beaucoup parlé pendant ces deux jours sur le climat. L'exemple de Vancouver à 49 degrés, par exemple, doit quand même nous interpeller. Ouais. Mais on a aujourd'hui un rapport à la population sur la question de la construction, sur la question de la protection de la nature, sur la question du retour de la nature en ville, qui fait qu'aujourd'hui, il devient, y compris politiquement, de plus en plus difficile de construire. Et on voit bien d'ailleurs dans les postures des ministères, je ne parle pas du gouvernement, je fais exprès, mais bien des ministères qui sont schizophrènes et qui ne sont pas sur la même position entre eux. Si vous allez voir le ministre de l'Environnement, il va vous expliquer à quel point il serait dangereux de continuer à étanchéifier les sols et donc que l'on doit travailler différemment. Très bien. Mais si vous allez voir Emmanuel Wargon, elle va vous dire qu'il faut construire du logement.
Oui.
Et on voit bien qu'on est dans un tâtonnement idéologique, là. On est dans un changement de doctrine sur lequel on n'a pas encore complètement trouvé la bonne route à prendre. Et c'est nous, localement, dans des concertations qui sont de plus en plus difficiles, dans une acceptabilité des habitants. Enfin, aujourd'hui, ne serait-ce que couper un arbre qui est mort, qui est dangereux, ça devient hyper difficile, parce qu'on a une pétition, même pour un arbre mort. Donc on a quelque chose là qui est extrêmement sensible et qui rend, une fois de plus, l'exercice du maire particulièrement délicat.
Une ou deux questions sur le millefeuille, parce qu'il est quand même là. Puis alors, dans la région Île-de-France, pour le coup, avec la métropole Paris, on a le pompon.
C'est
tient ça. Le pompon.
On a été très créatifs.
Si on faisait du manège, on essaierait d'avoir la queue de Mickey. Donc, non, mais c'est vraiment ça. Très honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire non, mais on a créé des choses, mais il faut peut-être réduire aussi, parce que...
C'était un des engagements du président de la République au début du mandat. Enfin, il est passé par à peu près toutes les décisions possibles. D'abord, je ne touche à rien. Et puis, je fais sauter la métropole du Grand Paris. Et puis, tiens, je fais sauter les départements de la région parisienne. Et puis, sous la pression des présidents de départements de Grande Couronne, je ne fais sauter que les départements de Petite Couronne. Et puis, sous couvert, souvenez-vous-en d'ailleurs, avec une pensée pour Patrick de Védjian, l'acte fort de Patrick de Védjian et de Pierre Bédier qui crée ou qui fusionne deux départements pour lutter contre... Voilà. Et donc, le président de la République qui recule. Et finalement, à la fin du mandat présidentiel, rien n'a changé. La question de la réforme territoriale se posera à nous très très vite. Voilà, on l'a redit hier à Jacqueline Gourault. La loi 4D est un premier pas, mais il est évidemment insuffisant. Et je pense que l'étude qu'on a faite avec les maires d'Île-de-France le montre de façon très pointue. Les maires demandent de la souplesse, les maires demandent de la facilité, de la légèreté, de la capacité à agir. Et évidemment, plus on démultiplie les structures, plus on se rend la vie un petit peu compliquée.
Un mot sur un sujet que l'on a abordé ici pendant ces deux jours avec l'un de vos collègues, c'est la violence dont vous êtes victime. Alors, on le disait tout à l'heure, l'acceptabilité, par exemple, pour l'arbre mort, etc. Non, mais tout ça participe aussi à une forme d'énervement,
de violence,
d'excitation, de violence, etc. Comment on peut lutter contre ça? Parce qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas faire des miracles non plus.
Il y a deux sujets. Il y a d'abord la question, on avait ce matin un débat avec la procureure de la République de l'Essonne. Il y a la question nécessaire d'un rehaussement des sanctions à l'égard de celles et ceux qui commettent des actes de violence.
Mais il faut qu'elles soient appliquées.
Exactement.
Il faut que la justice fasse son travail.
Mais à l'endroit des élus, mais de
cas.
Toutes celles et ceux qui sont dépositaires d'une forme d'ordre public, comme les enseignants, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a un sujet lame de fond, qui est la violence de notre société aujourd'hui. Il y a une partie de la violence qui peut s'expliquer par de la paupérisation, par de la souffrance sociale. Ça peut se comprendre. Ça n'excuse pas. Ça peut se comprendre ou expliquer. Et puis, il y a une forme d'irascibilité de la population accentuée, une forme d'impatience, qu'on voit d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, qu'on voit à travers d'ailleurs la manipulation générale des grands médias. Enfin, je vous lisais une chaîne d'information, vous regardez une chaîne d'information, le soir, vous êtes énervé. Enfin, je veux dire, on a essayé d'organiser une arène permanente où des gens se foutent sur la gueule matin, midi et soir dans toutes les émissions. Moi-même, qui ai participé, qui était très souvent invité sur les plateaux télé pour vous le dire les choses franchement, je refuse maintenant d'y aller parce que je ne veux plus participer à cette mascarade qui consiste à organiser le cirque pour amuser la galerie qui est derrière la télé. On organise une espèce de violence qui fait que, aujourd'hui, et je le disais ce matin à la procureure, qui répondait assez souvent, à juste titre d'ailleurs, quand on parlait de violence, elle répondait « jeunes, éducation ». Je disais « attention, vous ne méprenez pas, hein. La violence, ce n'est pas les jeunes aujourd'hui. c'est toutes les couches de population, toutes les couches sociales, tous les âges. C'est le parent qui, au lieu de mettre une tarte à son enfant il y a 20 ans quand il avait une mauvaise note, vient taper le professeur. C'est une maman qui refuse de replier la poussette dans un transport parce que le conducteur lui explique gentiment que ça peut être dangereux s'il y a un coup de frein, etc. Et en fait, la violence, elle est partout. Ce qui différencie les périodes précédentes de celle-ci, c'est la capacité de passage à l'acte. C'est qu'on est violent tout de suite. Voilà. Mmh. Et ça, évidemment, les élus, puisqu'ils sont en ligne directe
en
et qu'ils sont
ligne,
responsables, évidemment, de tout, puisque quand il neige, c'est à cause du maire, bah, ils en prennent en ce moment plein la gueule.
Et vous-même, tête à claque, alors
Non,
votre
moi,
commune,
ça m'est jamais arrivé du point de vue de la violence, mais j'ai la chance d'avoir un physique qui peut-être n'invite pas forcément mais en revanche, la violence verbale, la violence sur les réseaux sociaux, mais j'y ai droit tous les jours. Moi, tant que vice-président de transport de la région, j'ai 3000 insultes sur les réseaux sociaux par jour. C'est comme ça. C'est la société
alors,
d'aujourd'hui.
Bon, Stéphane Baudet, vous êtes un fin politique. Une petite question quand même par rapport à la fois au régional que l'on vient de vivre, donc Valérie Pécresse qui a gagné ses régionales, donc qui poursuit son activité à la tête de la région. J'imagine que ça vous satisfait, bien évidemment. Cela étant, on a un peu de mal parfois quand on est à la place du journaliste que je suis, et on se dit, mais finalement, il est plutôt macroniste aujourd'hui ou LR ? Il se positionne dans quel camp ? Est-ce que demain, par exemple, vous irez soutenir un candidat LR plutôt qu'Emmanuel Macron ?
Moi, je ne me pose pas la question comme ça. Alors, je ne dis pas ça pour botter en touche. C'est que la présidentielle est dans un an. On ne sait pas qui sera candidat.
Ouais.
Si Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse est candidat, je m'y intéresserai. Si une frange
donc c'est un bon début de réponse.
Si oui, mais je vais répondre très franchement. Si c'est une frange beaucoup plus à droite de la droite telle que Laurent Wauquiez, je ne suivrai pas. Voilà, j'ai d'ailleurs quitté les LR au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez. Donc moi, je suis parfaitement droit dans mes bottes. Je suis maire de la seule ville-préfecture de France, la seule, dont l'exécutif, c'est-à-dire les maires adjoints, vont de la ex-LCR aux Républicains, le seul. Et j'en suis très fier. On va peut dire que j'ai fait de la Macronie avant les autres. Je vous rappelle que j'ai fait élire Manuel Valls, président de mon agglomération, alors qu'elle était majoritairement à droite. C'était en 2008.
Oui.
Donc on
n'a
pas attendu.
Manuel Valls, c'est un peu plus à droite, l'impression.
Et d'ailleurs, Manuel, qui était présent tout à l'heure, me reproche assez souvent d'être trop à gauche pour lui. Vous voyez, donc voilà. Non, pour répondre quand même sur la question, sur l'aspect plutôt régional, j'avais dit il y a quelques mois que la crise sanitaire avait... pour le coup, permis d'incarner les régions, qui restent une collectivité assez jeune, finalement. Ben, je me rends compte qu'avec le résultat dimanche, tous les sortants ont été réélus. Mmh. C'est-à-dire que pour la première fois, forme de super-maire, c'est valable pour Valérie, mais c'est valable pour tous les autres présidents de région. Et d'ailleurs, on dit assez souvent, c'est plutôt la droite qui a gagné, c'est plutôt le Front d'Aide qui a perdu. Non, c'est plutôt les sortants qui ont gagné, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que dans la crise sanitaire, ils ont incarné la réponse aux côtés des maires. Mmh. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est bien les collectivités qui ont incarné la réponse dans la crise sanitaire. Et dans cette relation de confiance à bâtir avec l'État, bah, je trouve que c'est un bon signal qu'il ne faut pas ignorer.
Si je puis me permettre, le premier vainqueur, c'est quand même les abstentionnistes.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est une tendance lourde qui est assez ancienne, qu'on ne doit pas ni au régional d'aujourd'hui, ni à Macron. Enfin, si on réapprenait... petite incise là-dessus, mais il me semble qu'on avait déjà débattu de cela l'année dernière. Mais si on réapprenait dans notre pays aux Français à être citoyens, électeurs, ce qu'on ne fait plus depuis 3 générations à l'école, si vous n'avez pas fait Sciences Po, comment vous voulez comprendre l'élection régionale ? Il n'y a aucun moment dans votre vie de citoyen où on vous apprend le vade-mecum institutionnel français.
C'est
trop facile de se dire derrière, on a un millefeuille, il est illisible, mais parce qu'on a appris à personne. On dit souvent, la démocratie, c'est les Grecs qui l'ont inventée, c'était génial. Je me permets de rappeler que chez les Grecs, la démocratie, d'abord, elle ne s'adressait qu'aux hommes, donc ce n'était pas toujours qu'exemplaire, mais elle ne s'adressait surtout qu'aux hommes éduqués. Voilà. Donc il faut aussi qu'on rééduque notre population. J'en ai marre, pour dire les choses, qu'on dise systématiquement l'abstention, c'est parce que les élus sont nuls ou seulement parce qu'il y a un échec du résultat. Ce n'est pas vrai. La plupart des maires qui se représentent sont réélus. Les présidents de région qui se représentent sont réélus. Voilà. Donc ce n'est pas forcément que la crise de résultat.
Il peut y avoir une forme de colère ou de dégoût, etc.
Mais
il y a une forme
normale,
quand même, il faut le dire, de je m'en foutisme.
Mais il y a de ça et puis il y a qu'on ne connaît plus. On ne connaît plus, on ne fait plus nation. Alors évidemment, après, on peut avoir des débats philosophiques. Nous sommes un pays qui n'a pas fait la guerre depuis 70 ans, donc on n'a plus de sentiment de nation. Enfin, je rappelle que ce qui fait nation en France aujourd'hui, c'est le rythme des Coupes du Monde qu'on gagne en 98 ou en 2018.
Mmh.
Voilà. Donc la question du sentiment national, de ce qui fait qu'on est ensemble, de dessein commun, n'existe quasiment plus. C'est pas étonnant. Enfin, quand on analyse sociologiquement ce qui se passe dans un pays comme le nôtre depuis 20 ou 30 ans, c'est pas étonnant, l'abstention. Et justement, si on continue de se cacher derrière ou la crise des résultats ou les élus qui sont nuls, etc., on n'apportera jamais les bonnes réponses.
Quand Emmanuel Macron, dans le magazine Elle ce matin, s'inquiète du racialisme qui gagne la France...
Ouais, ça, c'est un sujet. Ça, c'est clair.
Ça, vous le sentez.
Oui, mais on l'a senti dans une partie de la campagne et des postures au début de la campagne électorale. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Ça vous inquiète ?
Oui, mais parce que ça fait, c'est les ferments de la destruction d'une société qui ne va pas bien. Voilà, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à faire société très très vite, sinon on va vers quelque chose de grave, indéniablement.
Merci beaucoup Stéphane Baudet d'être passé nous voir sur Radio Territoria et Radio Immo, et vous êtes le bienvenu évidemment à chaque fois. Ainsi se terminent ces deux jours donc au Salon de la MIF. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.
Merci à vous.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.